Cet épisode a été enregistré en septembre 2020. Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur le développement économique en temps de COVID-19 à Sherbrooke. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopol. Mme Fortin, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire, en commençant, quelques mots sur qui vous êtes et comment vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
En fait, moi, j'ai un bagage en administration des affaires. Et par la suite, j'ai travaillé pendant quelques années en implantation de réseaux informatiques. Et je suis retournée après ces 2-3 ans de travail à temps plein faire une maîtrise en gestion internationale. Moi, j'avais le goût vraiment de l'international, mais en même temps, ça m'a permis de faire un stage avec des entreprises. Donc, pendant mon séjour à l'université, je suis allée faire un stage en Europe. Alors, ça m'a donné beaucoup l'idée de travailler avec des entreprises. J'ai connu beaucoup de PME. Puis j'ai travaillé beaucoup avec plusieurs d'entre elles, malgré le fait que j'étais aux études, mais pour faire mon essai. Alors, j'ai fait mon essai, mon mémoire, si on veut, là, sur les alliances stratégiques dans les PME québécoises tournées vers l'international. Alors ça, ça a été extrêmement enrichissant puis très pertinent. Puis après ma maîtrise, bien, je suis devenue directrice générale et commissaire industrielle d'une corporation de développement économique. Alors, comme je suis aujourd'hui, alors j'ai fait ça en sortant de ma maîtrise, travail que j'ai adoré faire. Et après 3 ans, j'ai quitté pas parce que j'aimais plus ça. Au contraire, mon conjoint avait une opportunité pour que nous puissions aller travailler en Chine. Alors nous avons tout vendu, nous avons quitté le pays pour aller travailler en Chine. Alors là, nous sommes revenus au Québec, j'ai travaillé dans le privé, entreprise en fibre optique. J'ai ensuite été à la tête d'un start-up en biotechnologie avec un médecin du CHUL. Ensuite, j'ai travaillé pour une entreprise, j'ai été vice-présidente d'une entreprise en transformation de métal en feuille. Et il y a 12 ans maintenant, nous sommes en Estrie. Et j'avais beaucoup, moi, travaillé en propriété intellectuelle dans le cadre du start-up en biotechnologie. Alors, j'ai occupé les fonctions de présidente-directrice générale ici de la Société de transfert technologique issue de l'Université de Sherbrooke. Et après 5 ans, le poste ici s'est ouvert et j'ai appliqué sur ce poste-là que j'occupe depuis maintenant 7 ans. Alors, je suis revenue un peu dans mes anciens amours. Hein. Comme je vous disais au tout début, j'ai été commissaire industriel, DG d'une corporation de développement économique. C'est ce que fait Sherbrooke Innopol. Notre mission première, c'est d'accélérer le développement des entreprises et agir pour faire de Sherbrooke un milieu d'affaires innovant et attractif.
Et quels sont les types d'entreprises que vous accompagnez?
En fait, il y a 5 filières clés qu'on pourrait définir, là, c'est au créneau, si vous préférez. Industrie manufacturière, fabrication de pointe, ça, c'est une des filières clés. Technologie de l'information, nous avons également technologie propre, science de la vie et des entreprises qui sont dans le secteur micro, nano, technologie. Alors ça, ce sont les 5 créneaux filières avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Ça représente à Sherbrooke 680 entreprises.
Et on parle de combien d'emplois qui sont créés par ces entreprises-là?
Plus de 20 000 emplois dans ce secteur-là, juste Sherbrooke.
Ça fait pas mal de monde. J'étais content de vous rencontrer, Mme Fortin, parce que pour moi, le développement communautaire, le développement culturel, c'est assez clair, mais le développement économique, c'est quoi exactement?
Les gens sont pas très familiers avec le développement économique. On compare souvent ça à la croissance économique, ce qui est... pas loin, mais disons que le développement économique comme tel, c'est un ensemble de transformations qualitatives qui accompagnent une croissance durable. Évolution, par exemple, des structures économiques, sociales et culturelles d'un pays donné. Alors, c'est un ensemble de différents acteurs. Et on peut le traduire, par exemple, par la hausse d'un taux d'alphabétisation. Les gens ne pensent pas à ça. Plus les gens sont alphabétisés, bien, plus leur niveau de richesse augmente. Alors, ça fait partie du développement économique. Le développement du système de santé. Quand on a un système de santé qui va bien, bien, ça fait partie également du développement économique. La construction d'infrastructures, l'urbanisation. Ça, ce sont des éléments qui vraiment viennent traduire le développement économique.
Pouvez-vous nous présenter comment votre organisation a réagi à cette crise-là?
Dès le début, j'ai mobilisé l'équipe chez Apocnopole. On a divisé par filière clé. On a fait des groupes de 3, 4, 5 personnes ensemble pour contacter chacune des entreprises. On voulait leur parler. Un courriel, c'est vraiment impersonnel. Alors, on voulait leur parler, entendre leur voix au bout de la ligne, puis voir comment ça allait. Et on leur posait aussi des questions à savoir comment vont vos liquidités, vous avez de la liquidité pour combien de semaines, combien de mois. Et bien souvent, les gens nous disaient « ça va bien, j'en ai pour 3 semaines, 1 mois ». Alors, c'est sûr que celles qui nous disaient « j'ai pour 6 mois de liquidité », mais on en a eu qui nous disaient que j'en ai 2 semaines, 1 mois. Celles-ci, là, on a travaillé beaucoup avec ces entreprises-là pour les aider. Au fur et à mesure que les programmes sortaient, les accompagner pour aller chercher l'aide financière dont elles pouvaient bénéficier. Alors ça a été un travail colossal, mais combien gratifiant pour les employés parce qu'ils avaient le sentiment vraiment d'aider les entreprises. Parce que nous, c'est ça notre rôle, hein, c'est d'aider et de supporter les entreprises en fonction de leurs besoins. Alors ça, c'est la première chose que nous avons fait.
D'accord. Et quelles ont été les autres priorités de votre équipe?
Informer les entreprises sur les programmes d'aide. Parce qu'au début, là, rappelez-vous, il en sortait 1, 2, des fois 3 par jour. Là. Et les entrepreneurs étaient complètement perdus, et avec raison. Alors, notre rôle, nous, c'était, bien, on a fait un site web COVID, juste une page COVID. Alors, on mettait toutes les informations à jour sur une base quotidienne. Alors, tous les programmes d'aide qui sortaient, que ce soit financiers, reliés aux ressources humaines, peu importe les programmes d'aide qui étaient véhiculés, fédéral, provincial, municipal, nous les mettions en lien sur notre site. Et en plus, on faisait venir des gens spécifiquement pour venir parler de ces programmes-là, pour mieux conseiller les entreprises. Alors, on faisait ça 2 fois semaine. Et on a eu jusqu'à 130 participants par séance. Il y avait un besoin. Les gens voulaient connaître. Alors, on faisait ça avec une plateforme, de rencontre virtuelle. Puis, on permettait aux entrepreneurs de poser toutes les questions qu'ils avaient. Et alors, c'était bénéfique. Les gens avaient beaucoup de questions. On en a eu beaucoup. C'est très technique. Je pense, entre autres, à la subvention salariale d'urgence canadienne. Les entreprises qui pouvaient payer leurs gens qui étaient en télétravail, qui gardaient leurs employés à l'emploi pour maintenir le lien d'emploi. Ça, c'était... On a fait venir des fiscalistes là, à 3 ou 4 séances là, pour vraiment bien expliquer. Alors, c'est le genre d'éléments qu'on a mis en place. On a fait des webinaires aussi très pointus. Notamment, on en a fait un sur comment monter un budget de caisse en lien avec la gestion des liquidités. Ça a l'air anodin, mais vous savez qu'il y a des entreprises qui ne savaient pas comment faire un budget de caisse. Puis c'est pas péché, là, mais en même temps, nous, on s'est dit, dans cette période-ci, il faut que nos entreprises soient accompagnées. Alors, on a fait ce webinaire-là en lien avec une firme locale ici. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Puis on a permis aussi notre site web, nous, là, c'était pas juste Sherbrooke. Moi, j'ai même dit à tous mes collègues estriens, mes vis-à-vis estriens, allez sur notre site. On l'a partagé à tous ceux qui souhaitaient. Dans le fond, c'est public, hein? Vous avez accès. Allez-y. Alors, ça évitait à nos collègues des autres MRC de l'Estrie de faire une page web, dans le fond, qu'on avait déjà fait. Donc, on l'a partagé à tous. Une chose qu'on a faite dès le départ, on a monté un plan de contingence pour que les entreprises puissent également dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, pendant la période de « à quoi dois-je penser? » Alors, on leur faisait penser à différents éléments au niveau financier, au niveau ressources humaines, Qui est la personne responsable aujourd'hui? Demain matin, vous avez la COVID. Qui vous remplace? C'est toutes sortes d'éléments auxquels... comme un guide hein, qu'on a formé, qu'on a bâti. On l'a fait en version Word et Excel. Puis notre guide s'est promené, encore une fois, dans les MRC. J'en ai même de Longueuil qui m'ont dit « Josée, c'est wow, est-ce qu'on peut l'utiliser? » Ben oui, allez-y. Alors nous, l'idée, c'était pas de dire « Non, non, on a fait ça pour Sherbrooke, puis on veut le garder à Sherbrooke. » Non, on l'a partagé. Ça, c'est un autre bon coup qu'on a fait et qu'on a partagé avec plein d'acteurs en développement économique partout au Québec.
Pouvez-vous nous dire comment se porte le milieu économique à Sherbrooke après l'effet de près de 6 mois de crise?
En général, j'aurais tendance à vous dire que le secteur industriel tertiaire moteur que nous, Sherbrooke-Napole, nous représentons, là, se porte relativement bien. Nous avons déjà fait un sondage, puis nous sommes en train d'en mener un présentement, à savoir est-ce que les entreprises ont toutes rappeler leurs employés. Je vous dirais, selon le taux de réponse que nous avons aujourd'hui, là, on a plusieurs entreprises qui ont rappelé 100 % de leurs employés. Celles qui ne les ont pas rappelés, cependant, le taux de rappel est plus élevé que 75 %. Ça joue entre 75 et 80 %.
Et qu'est-ce que les entreprises ont dû faire pour s'adapter à la situation?
C'est sûr que les entreprises, ça leur a demandé beaucoup d'ajustements en termes de mesures sanitaires et surtout d'assurer la sécurité et la santé de leurs employés. Il y avait comme vraiment pas le choix. C'est des façons de faire différentes. Au lieu de travailler, peut-être, il y en a plusieurs qui ont opté pour travailler avec des cellules, alors composées peut-être d'un minimum de personnes. Alors, ce qui fait que si un employé dans cette cellule-là s'avérait infecté, bien, à ce moment-là, c'est que cette cellule-là qui pourrait être touchée directement et les employés, l'entreprise pourrait continuer ses activités. Mais malheureusement aussi, je vous dirais que tout ce qui est concernant le développement d'affaires, on ne fait plus le développement d'affaires comme on le faisait, c'est-à-dire prendre sa valise puis d'aller rencontrer des clients. On va faire ça en mode virtuel. Il y en a qui n'ont pas rembauché nécessairement leur personne en développement d'affaires parce que évidemment, quand vous avez une équipe, il y en a un ou deux qui est sur la route, bien, à ce moment-là, puis là, ils prennent plus la route, puis peuvent faire beaucoup plus dans leur bureau via virtuel. Alors, il y a un changement là, qui s'est opéré, c'est sûr. Les entreprises ont dû s'adapter. Les entrepreneurs sont très impressionnants. Ils s'adaptent très rapidement au changement. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Mais je vous dirais, ils sont très résilients et ils ont très bien répondu à ces changements-là auxquels on doit faire face, de toute façon.
Et pouvez-vous me donner un exemple concret de problématiques que les entreprises ont pu rencontrer?
Une difficulté que les entreprises ont peut-être vécue, c'est tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, des produits qui pouvaient venir de la Chine. On sait, hein, le cycle, là, on a commencé avec la Chine, la pandémie, oups, ça s'est déplacé vers l'Europe, puis là, nous, on a été touchés par la suite. Alors, pendant que nous, on travaillait, bien, la Chine ne travaillait pas. Alors, on a des entreprises qui ont eu de la difficulté à s'approvisionner. Quand M. Legault a décrété qu'il souhaitait mettre le Québec sur pause, on a des entreprises qui ont resté, malgré tout, en opération, parce qu'elles étaient considérées comme essentielles. Alors, elles ont travaillé à effectif réduit et elles ont vraiment eu de la difficulté. Là, on le savait qu'il y avait de la difficulté au niveau de l'approvisionnement. Alors, nous, on les a aidés là-dedans à trouver des fournisseurs potentiels localement, un peu plus larges au niveau du Québec, pour permettre à ces entreprises-là de produire. Alors, ça, je vous dirais que ça a été un enjeu. Puis, ça en est encore pour certains, là, au niveau de la chaîne d'approvisionnement.
Et est-ce que les entreprises ont collaboré entre elles pour s'approvisionner?
Ça, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie, beaucoup d'entraide par rapport aux fournisseurs locaux, là. Les gens disaient, oui, moi, j'en ai stock, je peux effectivement t'en vendre ou t'en prêter, puis la journée où t'en as, tu me le remets. Peu importe la formule, on a vu une phase d'entraide, puis espérons que ça va continuer. Cette pandémie-là, oui, elle a eu des impacts négatifs, mais elle a quand même eu des impacts positifs. Et moi, que je trouve particulièrement intéressant, ça fait des années qu'on dit aux gens d'acheter localement. Et la sensibilisation à l'achat local, si c'est quelque chose que je crois qui est bien ancré de plus en plus chez les consommateurs, c'est bien ça. L'autosuffisance alimentaire, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été éveillé. Ça fait des années que je le dis qu'on devrait, le Québec devrait avoir l'autosuffisance alimentaire. On s'entend qu'on ne commencera pas à faire pousser des bananes, là. On s'entend là-dessus. Mais on pourrait peut-être manger des fraises à l'année, par exemple. C'est une caractéristique qui nous distingue grandement, les fraises du Québec. Pour ce faire, bien, ça prend des serres, j'en conviens. Mais on a tous les ingrédients dans le sens que nous avons Hydro-Québec, qui est un producteur hydroélectrique, d'électricité qui est propre, et on pourrait offrir des tarifs au même titre que les alumineries, qui permettraient à ces serres d'être très compétitives puis d'offrir des produits québécois aux consommateurs.
Pensez-vous que la pandémie peut avoir eu des effets négatifs aussi sur les travailleurs?
C'est sûr que du jour au lendemain, là, il y a des gens qui se sont retrouvés, sans emploi. Puis là, il y a eu des aides gouvernementales qui sont arrivées. Puis franchement, on a été choyés, là. Il y a eu des éléments bons, mais en même temps, je vous dirais, un peu négatifs, néfastes aussi pour la santé mentale de certaines personnes. Se retrouver chez les personnes qui se retrouvent strictement chez elles, puis se lever le matin pour aller travailler, là, c'est gratifiant, là. On se lève, on se prépare, on a un boulot, on va travailler. Tu sais, on n'est pas 24-7 à l'intérieur des murs de sa maison, quoique ça peut être agréable aussi, mais il y en a qui ne sont pas faites pour ça. Ça a eu des effets négatifs chez certaines personnes en termes de santé mentale. Alors, ce qui fait qu'il faut être très aux aguets par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'inquiétant.
Vous m'avez parlé au départ de l'importance de l'éducation dans le développement économique. Comment voyez-vous la situation avec les jeunes qui ont vu leurs études être perturbées par la pandémie?
Quand on pense aux jeunes qui pourraient, tu sais, qui sont peut-être retournés sur le marché du travail, mais qui ensuite pourraient décrocher. Le décrochage scolaire, pour moi, c'est une catastrophe. Espérons que cette COVID-là ne nous permettra pas de reculer en lien avec le décrochage scolaire. Ça serait vraiment majeur, surtout quand on regarde toutes les tendances technologiques qu'on voit, qui se développe, qui émerge. On ne s'en va pas vers moins de technologie, là. On s'en va vers un accroissement technologique. Donc ça veut dire qu'on a besoin de gens qui sont formés. Puis quand je dis ça, là, ça ne veut pas dire qu'on a besoin seulement d'universitaires, là. On a besoin de gens professionnels, formation professionnelle, qui sont en mesure de travailler avec des équipements numériques. Alors, de plus en plus dans les entreprises, on voit de plus en plus des équipements numériques. Alors, pour ce faire, ça prend des gens qui savent lire, qui savent écrire, qui savent compter. Alors, on n'a pas besoin d'un doctorat pour faire ça, là. Mais au moins qu'il y ait une formation secondaire, minimalement. Ensuite, une formation professionnelle, s'ils travaillent dans des entreprises manufacturières et autres. Et ensuite, formation technique, par exemple, au niveau collégial. Mais on se doit de garder nos jeunes sur les bancs d'école le plus longtemps possible. Et les employeurs ont un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre avant la COVID. On l'a encore aujourd'hui, là. on a des entreprises qui ont encore de la difficulté à recruter. Surtout des gens d'un point de vue spécialisé, d'où l'importance de continuer les études et d'aller chercher leur diplôme.
Comment ça s'organise en ce moment, le développement économique, avec les différents partenaires?
On a une culture, je vous dirais, à Sherbrooke, de travailler en collaboration avec différents partenaires. Et je ne vous cacherai pas, je crois que cette culture-là s'est accentuée avec la pandémie, ce qui est très bien, ce qui est très, très bien. Sherbrooke est une ville à taille humaine, ce qui fait que les gens se côtoient plus facilement. On travaille avec les gens, tout l'écosystème, par exemple, le pôle du savoir, les deux universités, les collèges cégep, toute la formation professionnelle. Ce sont des gens qu'on côtoie. On a une problématique, on s'assoit, on la résout. Alors, c'est facile de travailler avec les acteurs qui sont vraiment dans l'écosystème du développement économique. Et encore plus, je le dirais, depuis la pandémie.
Est-ce qu'il y a des activités que vous avez pu poursuivre en virtuel avec les entrepreneurs durant la pandémie?
On a une cellule de mentors. Nous, ce sont des entrepreneurs qui mentorent des mentorés individuellement, mais on le fait, on le partit en groupe aussi, puis on le continue pendant la pandémie. Là. Alors, ça a lieu de manière virtuelle encore, mais ce qu'on a remarqué, nous, pendant la pandémie, les entrepreneurs ont besoin de parler. Ont besoin de se faire rassurer. Ils ne veulent pas être seuls. Puis ça, c'est une belle avenue pour le mentorat, de parler à un entrepreneur, à un père, puis sans se faire juger. Parce que c'est ça, le mentorat, en doute. Les mentors sont là pour écouter. Et on travaille sur le savoir-être, alors qu'un coach, on va travailler sur le savoir-faire. Alors, la distinction est importante, mais les mentors qui sont là, ils sont en mode écoute, puis ils ne sont pas là pour juger. Vous savez, les entrepreneurs ont vécu énormément de pression au cours des derniers mois. Puis ils ne veulent pas amener ça à la maison. Ils ne veulent pas parler de ça à leur conjoint, conjointe, ou peu importe. Et ils ont besoin de se confier à quelqu'un qui probablement vit la même chose que cette personne-là. Et les mentors sont là pour ça, justement. D'avoir une oreille attentive, puis de ne pas jouer au père et à la mère, mais et surtout pas juger, mais d'échanger. Puis on a souvent des commentaires comme quoi c'est très bénéfique pour les mentorés, parce qu'eux, ça leur permet justement de parler de ce qu'ils vivent sans se sentir jugés. Ça, c'est des choses qu'on a maintenues même pendant la pandémie, là. Et alors, on reprend graduellement là, certaines activités là, en mode virtuel, pour permettre aux entrepreneurs d'avoir ce lien-là entre eux.
Maintenant, quels sont, selon vous, les défis majeurs auxquels le secteur économique doit faire face?
Je ne vous cacherai pas que le plus grand défi, c'est la crainte d'avoir une deuxième vague. Les entrepreneurs, ils se préparent quand même, là, mais on ne sait pas. Hein, on se bat tous contre un virus complètement inconnu. Alors ça c'est un grand défi. Et s'il y avait deuxième vague, puis là, malheureusement, on voit une recrudescence là, de plus en plus. Là. Alors, espérons que les gens vont continuer de collaborer. Puis c'est sûr, c'est un changement radical dans nos façons de faire. L'humain est habitué de socialiser. Tu sais, on n'est pas habitué, nous, de rester chez nous à rien faire sans voir les gens. Alors, j'en conviens, c'est difficile pour tout le monde. Mais on se doit de continuer à être collaborateur et espérer qu'il y aura un vaccin qui nous permettra de justement mieux nous protéger face à cette pandémie-là. Je sais que c'est une grande crainte là, de la part des entreprises. Un autre élément aussi, Vous savez, là, les entreprises bénéficient encore de plusieurs programmes d'aide financière. Nos gouvernements ont ouvert les valves, là, on l'a vu, là, on a un déficit là, qu'on n'a jamais eu. Mais je pense qu'il fallait poser des gestes, c'est sûr. Mais là, si on avait une deuxième vague, est-ce que nos gouvernements pourraient suivre financièrement? Ça, c'est l'autre question à laquelle je n'ai pas de réponse ce matin. Mais d'un autre côté, c'est un enjeu qui est très, très inquiétant pour l'avenir de nos entreprises. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que on l'a vu chez certaines entreprises qui avaient moins de liquidités. Elles bénéficient de programmes. La journée où les programmes cessent, si elles n'ont pas pu ramener les ventes à un niveau avant pandémie, parce que c'est le cas, il y a plusieurs qui n'ont pas de ventes. Alors, ce qui fait que d'avoir une deuxième vague avec une conjoncture de moins de programmes incitatifs, puis moins de ventes, ça va avoir un effet extrêmement difficile. Puis, en fait, ça pourrait amener à des fermetures d'entreprises, là, carrément. Alors, on n'est pas à l'abri de ça, là.
Et si vous aviez un conseil à donner à un professionnel qui commence dans le domaine de l'action collective ou du développement des communautés, qu'est-ce que ce serait?
Moi, je dis toujours à des gens, vaut mieux connaître quelqu'un que quelque chose. Alors, le réseautage, le réseau de contact, de connaître ce que ces gens-là font, c'est une richesse très importante. Parce que dans des situations comme on le voit aujourd'hui, quand quelqu'un nous contacte et nous demande « connaissez-vous telle chose, telle... » On peut réagir plus rapidement quand on connaît des gens. Puis j'ai toujours donné ce conseil-là, peu importe à qui, que ce soit un professionnel en développement économique ou peu importe. Le réseau de contact, c'est une puissance que les gens sous-estiment.
Et est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire ou qui vous soutient dans votre travail?
Moi, j'en ai une de Charles Darwin. « Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni même la plus intelligente. C'est celle qui s'adapte le mieux au changement. » Je pense qu'elle est très appropriée par les temps qui courent.
Effectivement. Madame Fortin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre travail en développement économique.
Ça m'a fait grandement plaisir. Merci.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.